Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Guirec Hamon, il est référent Jeunes Horizons des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct ce matin, malgré le petit chahut dans le studio. Nous allons parler de choses sérieuses, nous allons parler de politique ce matin. Bonjour Guirec Hamon.
Bonjour.
Voilà, on va garder les usages malgré le début de vacances dans le studio, en tout cas. Guirec Hamon, une question qui n'est pas une question du bac de philosophie, peut-on dîner avec un adversaire politique? Je pense que vous voyez où je veux en venir.
Oui, un petit peu. La réponse, la mienne en tout cas, ce serait de dire oui. En démocratie, on a quand même cette chance-là, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement quand même du personnel politique, il faut donc le connaître. D'une part, il faut le connaître, ça fait partie des usages, des us. Et autrement, d'un autre côté, il faut aussi c'est là encore un autre point de vue, mais en démocratie, on a la chance, si vous voulez, d'avoir des partis politiques à l'échelon national qui s'affrontent. Mmh. Et c'est là aussi une certaine forme d'entraînement pour ce qui est après les questions internationales, à l'échelle internationale, où les enjeux sont autres. Donc toute cette vie politique, cette vie démocratique, la démocratie a ça aussi comme intérêt, c'est qu'elle entraîne les hommes politiques à parler aux autres, mmh, ou ne pas parler, il faut faire des choix. Édouard Philippe a fait le choix de rencontrer Madame Le Pen et donc de savoir, finalement, d'avoir une lecture personnelle de sa personnalité, de son personnage, de ses idées, au-delà des plateaux télé, au-delà des médias, mmh, où il est parfois reproché aux intervenants dans les débats d'être des acteurs. Et ben, on ne va pas au théâtre pour, mmh, rencontrer les acteurs, on va pour voir jouer une pièce. Et bien, Édouard Philippe a rencontré Marine Le Pen pour connaître l'acteur, finalement, ce qu'il y a derrière. Et j'allais pas dire pour jauger, mais pour la connaître. Connaître son adversaire, c'est un adversaire. Mmh. Il n'y a pas de connivence derrière. Alors pourquoi l'avoir caché? Je pense que c'est parce que les réactions d'aujourd'hui montrent bien qu'on est toujours dans la suspicion, mmh, des hommes politiques et cette espèce de tous pourris. Donc ça a été révélé par Libération, mais ça fait partie aussi, comment dire, de rencontrer les gens. Il a pris, mmh, ce risque-là de rencontrer Marine Le Pen et de pouvoir, à l'avenir, en parler en connaissance de cause. Et
il a dit d'ailleurs mardi, chez nos confrères de TF1, qu'il n'avait pratiquement aucun point d'accord avec Marine Le Pen, mais que, pour rejoindre votre propos, c'était utile de pouvoir discuter dans une démocratie, y compris avec ses adversaires politiques.
Oui, mais je comprends aussi la méfiance des gens, des Français, envers les hommes politiques, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi, mmh, ils se sont vus. Mais la réponse est finalement beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est vrai, connaître. Et c'est pas nouveau. Il faut, c'est un avis qui doit être partagé aussi par d'autres, mais il faut connaître son adversaire et pas rester sur une lecture de ce que les médias ou un journaliste a écrit avec sa propre vision. Alors, il y a les idées, il y a les programmes, mmh, qui parlent, mais la personnalité qui porte ce programme et dans l'éventualité d'un second tour, moi je l'espère avec Édouard Philippe, je l'espère moins avec Marine Le Pen, il faut qu'ils se connaissent, mmh, il faut qu'ils connaissent les armes. Donc ça, au cours d'un repas, d'un dîner ou autre, c'est pas un festin, hein, on imagine forcément où ils se tapent dans le dos, etc. Non, c'est un rôle, je trouve, responsable que d'aller avant que l'urgence ne l'invite, de rencontrer cette personne et de savoir à quoi s'en tenir. Évidemment qu'il savait qu'il n'avait pas de points communs, mmh, ou très peu. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir lesquels. Mais il est allé, il s'est fait une idée. Est-ce que c'est allé dans le sens qu'il pensait auparavant? J'imagine que oui. Mais il a pris ce risque-là. Mmh. Et Marine Le Pen a d'ailleurs dit qu'elle déjeunait avec plein d'autres mondes, à savoir qui.
Voilà, on n'a pas eu de nom. Non. Voilà. Guirec Hamon, vous l'aurez sans doute assez vite saisi, on est dans une période politique très compliquée, très troublée, avec une gouvernance qui s'annonce assez difficile, ou pratiquement impossible, avec une Assemblée nationale qui n'a pas dégagé de majorité, quelle que soit d'ailleurs la formation politique. On parle beaucoup d'Édouard Philippe depuis quelque temps, on le voit un peu plus dans les médias. Édouard Philippe incarnerait-il un renouveau de la droite ?
C'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, il y a une voix de droite, ça c'est sûr. Ils s'en cachent pas, ils le disent, c'est un homme de droite, mais qui est capable de discuter avec les sociodémocrates jusqu'aux républicains, voilà, dans cet arc républicain traditionnel. Est-ce que c'est un renouveau de la droite? Ça va dépendre des autres composantes à l'Assemblée nationale, mais ailleurs aussi, sur les élections en 2026, municipales,
ouais.
Etc. Donc il y a plusieurs échéances qui vont apporter cette réponse-là. Moi, je ne peux pas vous l'apporter parce que je n'ai pas la science infuse. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui porte une conception de la politique qui a été peut-être un petit peu abandonnée ou en tout cas un peu méprisée, c'est celle du dialogue. Alors, pas le dialogue pour le dialogue, pas parler pour bavarder. Mais là, on voit quand même que ça fait un moment qu'il en parle, qu'il faut ouvrir le dialogue avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais il faut le faire. Et maintenant, on se rend compte qu'à l'Assemblée nationale, après cette clarification qui en est bien une, puisque maintenant on sait à quoi s'attendre avec le vote des Français, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour personne, il n'y a pas de grands gagnants, il n'y a que des perdants, en fait, en quelque sorte.
C'est ce qu'a dit le président de la République dans son expression française qui est parue dans la presse régionale. Personne n'a gagné.
Non, personne n'a gagné, en tout cas, dans la conception qu'on a, nous, en France, de la politique. C'est-à-dire que personne n'a gagné, ça veut dire quoi pour nous? Personne n'a la majorité. Mais en parler avec un Belge, avec un Italien ou avec un Espagnol, c'est pas tout à fait la même chose. J'écoutais ce matin, parce que c'était sur France Inter, c'était pas sur Bretagne 5, vous m'excuserez. Mais les Belges disent, ils nous donnent même des conseils, même les Allemands aussi nous donnent des conseils. On est un petit peu
prudents. Les Belges ont été longtemps sans gouvernement.
Exactement. Et peut-être commencer par plus petit, 4-3 partis, et puis ensuite voir. Nous, on est en train d'apprendre, ou réapprendre, à comment ça fonctionne finalement. Donc, les jeux à gauche de savoir on va nommer un Premier ministre entre nous à 200 députés, bon, bah, c'est un coup à ce qu'à la fin de l'année, il y a une motion de censure. Donc, Édouard Philippe, lui, tient ce discours-là. On n'est plus dans une majorité présidentielle, on est dans une majorité parlementaire. Ce n'est plus un régime présidentiel avec un président qui a une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que le président, finalement, est le moteur des propositions politiques. Maintenant, tout revient à l'Assemblée nationale. Par conséquent, c'est une majorité parlementaire.
On revient un peu, en quelque sorte, en tout cas on a pu le lire de ci, de là dans la presse, à une forme de 4e République. Est-ce qu'on a tourné la page du gaullisme, de la 5e République?
C'est une bonne question. J'aurais plutôt tendance à dire que non. Et le fait que l'on soit finalement un peu désorienté face à cette situation unique montre, au contraire, moi je trouve paradoxalement, que la 5e République est solide. C'est qu'il y a pas, on peut continuer à travailler ensemble. Ça dépend des gens, ça dépend des hommes et des femmes politiques, prendre leurs responsabilités. Et c'est plus finalement, d'une certaine façon, de ce côté-là qu'il faudrait se poser la question. Est-ce qu'on revient à une 4e République? Est-ce que les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui sont les politiques de la 4e République? Ont-ils cette responsabilité-là? Pour quelques mois, parce que là, sous la 4e République, ça ne durait pas très très longtemps. Mais
voire quelques semaines parfois.
Exactement. Donc, c'est pas tant du côté des institutions que du côté des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui qu'il faut trouver la réponse. Quand on voit quand on lit Monsieur Wauquiez qui dit non, nous ne ferons pas partie d'un gouvernement. Bon, très bien, on entend. Mais après dire qu'il faut unir la France dans cette situation de crise démocratique autour de principes, etc. Et puis dire non finalement, ça veut dire c'est moi ou rien. On revient aux détracteurs du macronisme, qui disaient que bon, bah, c'est très vertical, c'est moi ou rien. On est également sur le même discours de Marine Le Pen, c'est moi ou rien. Et pareil chez LFI. Donc c'est véritablement là, je trouve, que les hommes et les femmes politiques doivent trouver une réponse, c'est bon, bah, on va mettre de l'eau dans notre vin. Donc c'est là-dessus, plus que la 5e République, je trouve qu'elle est capable en elle-même. Il y a eu des cohabitations avant, pas de cette nature, mais c'est possible.
Oui, on vit un instant politique assez historique, il faut bien le dire. Avec ce mot qui a été lancé, Édouard Philippe l'a utilisé d'ailleurs, coalition, ça veut dire dialogue. Jusqu'où peut aller le dialogue? On a cru comprendre qu'Édouard Philippe aurait du mal à dialoguer avec le Rassemblement National, également avec LFI par exemple. Est-ce qu'il faudra quand même faire tomber quelques barrières et arriver à dialoguer avec tout le monde?
Il faut déjà connaître les principes, les garde-fous, les limites. Mais ça laisse un cadre immense, énorme. Les limites, c'est quoi? C'est les limites de la République, c'est les limites de la démocratie, les principes fondamentaux, etc. Il y a énormément de coins au cadre, mais ça nous laisse quand même un terrain de jeu ou alors une toile pour peindre quand même quelque chose de beau. Donc il faut d'abord, je pense, partir d'un cadre, et dans ce cadre-là, on dialogue. Mais là encore, ça doit faire appel à une certaine forme d'intelligence de chacun. Et c'est un nouvel exercice pour tout le monde, parce qu'on était habitué au fait majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les députés votent dans le sens du gouvernement. Et là, c'est un autre exercice encore auquel la France n'est pas habituée. Mais si on regarde nos voisins, ils y sont habitués. Bon.
Il y a une forme d'entêtement du président de la République. On a vu Emmanuel Macron dire, voilà, en gros, je schématise un peu, mais débrouillez-vous. Moi, je nommerai un Premier ministre quand j'en aurai envie. Finalement, la Constitution ne l'y oblige pas dans les deux heures qui viennent. Il est parti au sommet de l'OTAN, aux États-Unis, à Washington, laissant un peu la situation, en ce sens, un peu compliquée en France. Vous faisiez référence tout à l'heure à LFI qui n'a pas encore trouvé de nom, en tout cas la coalition de gauche qui n'a pas trouvé de nom pour un Premier ministre, à droite non plus. On a le sentiment quand même d'un tangage politique. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, ce tangage politique?
Est-ce que c'est dangereux? Là encore, je vais pas pouvoir vous répondre.
Est-ce que vous le sentez comme ça, finalement?
Pas pour l'instant, non. C'est un petit peu schizophrénique aussi, cette façon de... Est-ce que je comprends aussi, de critiquer l'hyper-présidentialisation, c'est-à-dire que le président prend toutes les décisions, et puis lorsque l'on donne la parole finalement aux électeurs, on se fait pas confiance finalement. Et on a quand même besoin de quelqu'un qui montre un cap. Et quand ce quelqu'un, ce capitaine dit « c'est à vous de décider », on est peut-être pris au dépourvu parce qu'on se dit « est-ce qu'on est capable de le faire ?» Donc je comprends qu'il y ait ce tangage-là, mais là encore, on revient sur la responsabilité des hommes et des femmes politiques. Il n'y a pas que le président qui est capable de prendre des décisions.
On entend beaucoup de choses. Guy Récamon, par exemple, on a entendu le président du Sénat dire « si demain c'est un Premier ministre et des filles, moi j'appellerai mes amis à voter une motion de censure ». On a eu le même discours du côté du Rassemblement National. À l'inverse, si ça avait été Jordan Bardella, je suppose qu'on aurait eu le même discours du côté de la coalition de gauche, du Nouveau Front Populaire. Ça devient compliqué finalement.
C'est que c'est illisible. Mais en fait, cette illisibilité, elle est issue justement de cette clarification. C'est que finalement, on ne sait pas par notre vote où on va. Elle est là, la clarification, ce qui est paradoxal. C'est qu'on a voté, la clarification fait que on ne sait pas où on va. Et on attend que finalement, il y ait une maturité chez nos responsables politiques qui tarde à venir. Donc moi, je comprends qu'on mette sur le dos du président beaucoup de choses. Enfin, il ne faudrait pas oublier non plus que les partis politiques doivent être moteurs d'idées. Et après, je comprends que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon aussi fasse peur. Il l'a construite comme ça. La personnalité de Marine Le Pen aussi fait peur, parce qu'on a toujours un doute sur ses véritables intentions.
Malgré la dédiabolisation.
On a quand même vu dans l'entre-deux-tours qu'il n'y avait pas 5 ou 6 brebis galeuses, finalement, qui était maintenu. Donc, il n'y a pas de clarification, il n'y a pas d'idée. Moi, j'entends bien les discours de gauche qui font appel à Léon Blum, à Jaurès, etc. Ça date un peu maintenant. Il faudrait peut-être avoir de nouveaux intellectuels, faire émerger de nouveaux intellectuels aujourd'hui. Ça peut demander du temps, mais Léon Blum, c'était quand même une personnalité de l'époque qui pesait. À droite, c'est pareil, on cherche encore un peu qui représente cela. Donc, Il y a cette façon un peu... on est un peu perdu, finalement. On n'a plus de repères idéologiques. Mais à force de dire, on est dans le concret, on est dans le pragmatisme, finalement, on a quand même besoin d'une boussole.
Alors justement, la boussole, ça peut être une personnalité, un homme, une femme qui se détache, un chef, alors voilà, je mets entre guillemets le terme de chef, mais qui se détache, qui donne un cap. On peut imaginer qu'Edouard Philippe soit celui-là.
Bah, c'est en tout cas tout le travail qui est mené. C'est voir loin pour faire bien. C'est d'ailleurs, c'est j'allais dire le dicton,
le slogan,
mm-hmm. un petit peu. C'est en effet ça, le parti date de 2021, fin d'année 2021. On prend du temps, c'est vrai, pour rencontrer, pour rédiger, pour proposer quelque chose de solide, mm-hmm. et pas simplement sur des effets d'annonce. On le voit du côté du Rassemblement National, ils ont gagné des électeurs en parlant du pouvoir d'achat, en parlant des retraites, et puis finalement, on fait marche arrière. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est de voir que finalement, on ne tient pas compte de cela. Finalement, on ne les tient pas pour responsables. Oui, c'est la situation actuelle, il faut qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Mais là, c'est plutôt l'inverse, mm-hmm. ils mettent une petite goutte de vin dans leur eau. Ils changent complètement de paradigme, quoi.
Mm-hmm. Avec quand même... Un message clair, voilà, je m'éclaircis d'avoir en même temps. Un message clair des électeurs, des électrices qui ont au premier tour voté massivement pour le Rassemblement National et au second tour, on a vu l'émergence de la gauche avec un fond rond républicain assez mmh. large qui s'est mis en place pour barrer la route au Rassemblement National. Donc il y a eu une alerte, il va falloir tenir compte de cette alerte, tenir compte du terrain, tenir compte des difficultés finalement humaines, des gens qui votent et qui ne sont pas une variable d'ajustement.
C'est un peu la base de la politique finalement.
On a l'impression qu'on a perdu un peu cette base.
Oui, et c'est pas le premier front républicain qui existe. On doit être au 5e, 6e aujourd'hui. Le risque, c'est que il s'effrite. Mmh. Pour l'instant, le front républicain, se maintient. Parce qu'il y a toujours le plafond de verre qui est toujours là, finalement. On avait l'impression qu'il avait disparu. Non, il est toujours là. Mais si l'un des deux cède, c'est l'accession du RN au pouvoir. Mmh. Et quand j'entends M. Jean-Philippe Tanguy parler de la privatisation des services postaux, qu'on pourrait imaginer donner ça à Amazon, moi je dis bien joué la souveraineté nationale. Mmh. Donc, il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est ça le danger mmh. véritable. En plus de ces effectifs qui sont cachés et qui sont... Monsieur Bardella disait, j'attends de vous, les députés du haut de ces 28 ans, d'être irréprochable, c'est-à-dire, finalement, attendez avant de vous lâcher. Moi, c'est un peu le sentiment mmh. que ça me donne. Mmh. À vos marques, prêts, je dirais partez, mais pas tout de suite, parce qu'on n'est mmh. pas encore en position de force. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est qu'est-ce qu'il y a encore derrière. Mmh. Et il faut s'intéresser, mais c'est la politique, il faut s'intéresser aux gens et pas simplement rester sur des positions, oui, le front républicain, et puis à force de dire république, on ne sait plus ce que ça veut dire.
On amène un peu à toutes les sauces.
Oui, et puis on mélange république et démocratie, mmh. on mélange plein de choses, on parle de déni de démocratie, j'entendais le Rassemblement National en parler, parce qu'il y a eu une coalition, justement, pendant ces élections, entre le nouveau Front Populaire et le bloc central. Mmh. J'ai envie de vous dire, messieurs, vous avez commencé avec Monsieur Ciotti. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi.
Voilà l'union des droites.
Voilà. Donc, bon, j'ai un peu envie de dire mauvais joueur. Donc, il faut être aussi un peu cohérent là-dedans. Ça fait partie de la vie politique. Et oui, mesdames, messieurs du Rassemblement National, ça fait partie du jeu politique aussi. Et vous avez quand même gagné au passage 40 députés. Donc, y a pire comme perdant.
Alors, on voit aussi la droite avec les députés républicains, la droite républicaine désormais, elle se nomme ainsi à l'Assemblée nationale, qui ont finalement maintenu le cap et qui sont très courtisés aujourd'hui. Est-ce que c'est de là que pourrait venir une forme de majorité ?
Ça dépend si on est dans une logique toujours de majorité pour le reste de la mandature. Mmh. Ou alors si on est sur une logique d'alliance, j'entends, de discussion texte par texte. Mmh. Est-ce que ça va être une majorité pérenne, solide, qui a vocation à durer et dans ce cas-là qui se reflète dans un gouvernement ? Ou alors, est-ce que ça va être au cas par cas ? Ça dépend. Là encore, c'est là que réside toute l'incertitude, c'est qu'on ne sait pas encore comment nos responsables politiques vont agir. Est-ce qu'ils veulent toujours rester dans une logique qu'on connaît de majorité stable ? Ou dans une logique qui est comparable à nos voisins dans une coalition qui peut être au cas par cas et qui n'est pas forcément mauvaise pour autant.
Avec évidemment cette situation politique, il y a la situation économique qui vient, j'allais dire, se surajouter à cette crise politique. On entend beaucoup de choses, la dégradation possible à nouveau de la note de la France par les agences de notation. On entend également des mots comme « mis sous tutelle » quand même, c'est très fort. On a entendu ce mot prononcé dans les couloirs de Parlement européen. Est-ce que là aussi, il y a une urgence, il y a une urgence sociale dans ce pays, on l'aura compris, le message des Français a été clair, mais est-ce qu'il y a une urgence aussi économique ?
Mais il y a des urgences sur tous les plans. Après, là encore, on utilise des termes pour faire peur. On est dans une logique, finalement, du spectacle aussi. Donc, qu'est-ce qui est urgent ?
On a oublié le pragmatisme, finalement.
Non, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de discours faits sur le dos du pragmatisme, parce qu'on est en manque d'idées. Donc, il est toujours plus sérieux de dire, en effet, bon, on va être concret, on va être pragmatique, on va agir sur les faits, on va peut-être même faire un gouvernement de techniciens.
Mais dans les faits.
Dans les faits, c'est un travail permanent. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a des gouvernants, c'est pour ça qu'on a un pays, qu'on a une administration. Il y a des urgences, on hiérarchise les urgences. Bon, sur l'économie mise sous tutelle de la France, non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a des économies ou alors des recettes fiscales à générer, ça dépendra du gouvernement, ça dépendra des orientations politiques. On est toujours dans l'attente. Soit on fait des économies, soit on ponctionne et on récupère des on fait pas d'économies, mais dans ce cas-là, on va récupérer.
On va taxer finalement.
Voilà. Et là encore, c'est difficile à dire.
Voilà, donc encore du flou de ce côté-là. Oui. On a entendu beaucoup parler, ça a été le mot prononcé beaucoup, y compris ici sur cette antenne, de l'immigration. Pendant la campagne européenne, pendant la campagne des législatives, on a vu que le Rassemblement national en a fait son fer de lance. Aujourd'hui, on a un manque de bras en France, il faut bien le dire. Il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Et il y a cette crainte de l'étranger, cette peur du réfugié. Comment faire aujourd'hui aussi sur cette question assez cruciale de notre pays qui vieillit, démocratiquement parlant, et accueillir, toujours accueillir et mieux accueillir?
C'est-à-dire comment faire pour pouvoir accueillir, entre les peurs et la nécessité
d'accueillir?
Eh bien, il faut discuter, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et c'est le rôle, là encore, des hommes et des femmes politiques, plutôt que de se réfugier derrière des grands principes qui peuvent être très beaux par ailleurs. Mais y aller et vraiment se confronter à cette opportunité, ça dépend. Il n'y a pas de vision cartésienne, voilà, c'est comme ça qu'on doit le... Non, il faut discuter et le discuter franchement, avec des chiffres, en effet, avec des idées, mais il faut en discuter. Je reparle encore de la loi immigration que Horizon a votée. Mais pourquoi ? Et parce qu'il faut, déjà montrer aux Français qu'on a compris ce qu'ils souhaitaient, mais que pour autant, on ne va pas laisser les idées ou finalement des réactions qui sont motivées aussi par le Rassemblement National, qui récupèrent ça pour en faire son beurre, finalement. Non. On ramène ça et on parle de concret, justement, de pragmatisme. Et c'était Édouard Philippe qui l'avait très justement dit, dans 50 ans, en Europe, notre population n'aura pas bougé. On sera à peu près au même niveau, 450 millions. En Afrique, elle aura triplé. Si on pense que nos frontières, avec le réchauffement climatique qui amène des mouvements de population, avec des problèmes géopolitiques régionaux, mais qui vont forcément impacter l'Europe... Si on pense qu'on peut rester toujours dans cette logique un peu naïve des flux migratoires, parce qu'en parler, ce serait forcément être réactionnaire, on se trompe. Et on va récupérer ça en pleine tronche, si je puis dire, dans quelques dizaines d'années. Moi, j'ai 31 ans. J'ai encore quelques années, normalement, à faire.
Je vous le souhaite.
Moi aussi. Donc autant s'en soucier maintenant, c'est pas confortable, mais ce sera beaucoup plus confortable d'en parler maintenant que dans 20-30 ans.
Avec aussi une autre question, que va devenir la France dans l'Europe ? On a beaucoup entendu parler de l'Europe, alors en bien ou en mal, Europe perfectible, on l'aura compris. On a senti une défiance quand même des Français vis-à-vis du projet européen, une forme de rejet même parfois, pas forcément d'ailleurs à l'extrême droite, parfois même à l'extrême gauche. Est-ce que là aujourd'hui, il va falloir parler différemment. Il va falloir que l'Europe écoute différemment les pays qui la composent.
Moi, je pense qu'il va falloir plutôt expliquer l'Europe, plutôt que de penser qu'elle est là et qu'elle est immortelle, que finalement, ça s'est fait naturellement au cours de l'histoire. Finalement, on est dans le sens de l'histoire qui a voulu la construction de l'Europe. Non, ça demande à être expliqué. En permanence, en permanence, en permanence, c'est l'éducation. Et c'est justement un point central à Horizon, c'est compliqué l'Europe,
mais il y a quand même des bases. Les gens ne comprennent pas grand-chose.
Hein. Non, et je crois. Hein.
Les deux parlements, enfin les deux sièges à Bruxelles et à Strasbourg, les commissions, qui dirige quoi, qui commande quoi, c'est des fois aux mêmes particuliers et dur à comprendre pour les journalistes même.
Oui, mais même pour les spécialistes, hein, c'est pas simple. Parce qu'on est 27 pays avec des langues différentes, avec des cultures différentes. Nous, on a un fait majoritaire traditionnel en France. On traverse la frontière pour aller en Belgique, c'est pas du tout leur façon de penser. Nous, on roule, bon, bah, maintenant le Royaume-Uni n'est plus là, mais on roulait à droite, au Royaume-Uni, ils roulaient à gauche. Ils avaient une en Espagne, vous avez une monarchie, on a une république. Vous avez des architectures complètement différentes, des cultures, même en France, qu'on soit au nord ou au sud, vous avez un accent différent, une culture différente. On aime plus le beurre à l'ouest, mais on aime l'huile d'olive dans le sud.
Le beurre salé, hein, je précise.
Exactement.
C'est important.
Ah oui, non, pas de... Eh bien, imaginons à la taille de l'Europe, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et donc, il a fallu trouver un consensus, une façon de faire de la politique ensemble avec nos différences, qui n'est pas simple à mesurer, qui est perfectible. Mais il faut l'expliquer aussi.
On a des changements politiques, et ce sera ma dernière question, il nous reste les trois petites minutes, c'est très court. On a des changements politiques en vue aux États-Unis. On a la menace de Donald Trump qui peut revenir au pouvoir. On a également des changements en Grande-Bretagne, avec un changement politique majeur, et des élections qui ont, j'allais dire, rebrassé les cartes là-bas aussi. On peut imaginer demain que le Brexit se fasse à l'envers et que la Grande-Bretagne revienne au sein de l'Europe.
C'est à eux de décider. On peut l'imaginer. Oui, comme on peut imaginer aussi, on peut tout imaginer. Il n'y a pas de sens de l'histoire, en tout cas. Enfin, la paix, ce n'est pas naturel, c'est culturel.
Des inquiétudes, on parlait des États-Unis, Donald Trump a dit « si demain j'arrive au pouvoir, l'Europe, vous vous débrouillez », il a pris un terme un peu moins, un peu moins choisi, « vous vous débrouillez pour vous défendre, l'OTAN n'aura plus lieu de vous protéger ».
Oui, mais après, il sera probablement rattrapé par la réalité. Il y a quand même des enjeux américains quand même sur le sol européen, qui est le premier quand même marché mondial. Donc il y a tout ça, mais l'Europe, justement, la France, si elle veut peser, c'est par l'Europe. Et c'est pas parce qu'on est 27 que on va se partager le gâteau à 27, on en aura moins. Non, le gâteau sera plus grand, donc on sera un petit peu plus gagnant.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Guirec Hamon, référent des Jeunes Horizons des Côtes d'Armor. Vous étiez mon dernier invité de la saison. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin dans une ambiance qui était un peu scolaire, un peu chahutée. On a parlé de choses sérieuses.
C'est agréable.
Et c'était important. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle journée, un bel été.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.